Vous écoutez
RMC.
RMC.
Ça va mettre la charrue avant les pneus.
Très très compliqué. Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
On venait à Rennes avec l'ambition de garder le point qui nous était accordé au coup d'envoi. Ça a été fait.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Bienvenue dans l'after, tout le monde, en direct jusqu'à minuit, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en podcast. L'équipe ce soir, coach Courbis est resté. Re-salue mon coach.
Re-salue à tous.
Et Kevin Diaz nous rejoint. Salut Kevin.
Salut à tous.
Ça va les gars, vous êtes
salut
en forme
Kevin. Ça va très bien, salut coach.
Au programme ce soir, le débrief, parce que si, il faut le faire, de ce 0-0. Match de la 12e journée de Ligue 1 entre Le Havre et Monaco ce soir. Et ce pénalty arrêté par le gardien monégasque à la dernière minute. Mais monégasque, mais à vrai. On vous attend au 32-16. Venez nous donner votre sentiment, venez débattre avec l'after. On va revenir aussi, bien sûr, sur la victoire de l'après-midi 3-0 du Paris Saint-Germain contre Reims. La victoire et les déclarations d'après-match de Luis Enrique. Parce que Mbappé met un triplé, mais Luis Enrique qui dit après le match que il est pas super content de Mbappé. Il nous dira ça tout à l'heure, que Mbappé doit faire mieux. On écoutera Luis Enrique, on en débat avec vous tous, mes parisiens, au 32-16. On sera également avec les drôles de dames tout à l'heure. Paulo Breitner viendra nous parler de la victoire du Bayern avec un Kane en feu, de la défaite du Borussia Dortmund et Johan Crochet, match fou pour l'AC Milan aujourd'hui en Italie. Et puis bien sûr le meilleur de l'actu du jour en fin d'after, les résultats du soir. On joue encore au Portugal, 68 minutes de jeu et Porto est passé devant Guimarães 2-1. C'est Conceição qui marque le deuxième but, partout celui-là, 2-1. Et puis c'est terminé en Italie ce soir, 1-1 entre Monza et le Torino. Et puis terminé en Espagne, le Real Madrid a finalement battu Valence 5-1. Voilà, les deux équipes qui marquent finalement 5-1. Carvajal, doublé de Vinicius et doublé de Rodrigo. Sur tous ces sujets, le 32-16, Adrien vous attend au standard. Vous nous appelez, vous passez en direct dans l'after. Je vous lis également sur le direct studio, sur les applis RMC, RMC Sport ou sur le chat de la chaîne YouTube de l'after. On est en direct vidéo @after-foot. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, comme ça dès qu'on est en direct, hop, vous l'avez devant vous et vous pouvez nous voir à la télé. Vous pouvez mettre sur vos télés l'appli YouTube et vous êtes en direct avec nous tous. 23h05, c'est parti pour le plus important.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Kevin, tes trois points ce soir.
Le premier point, ce sera la victoire du Paris Saint-Germain, bien sûr, qui rapporte que les trois points avec un énorme Donnarumma et un efficace Kylian Mbappé. Et en deuxième point, je vais parler de Reims, parce que honnêtement, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce qu'a proposé l'équipe de Will Steel face au Paris Saint-Germain. J'aime beaucoup cet entraîneur, je suis pas le seul, mais c'était très très bien. Et puis, alors je vais juste parler du match nul de ce soir, mais surtout en troisième point, j'ai envie quand même de parler en effet des déclarations de Luis Enrique que je trouve très intéressantes.
Donc t'as réussi dans tes trois points, tu ne veux même pas parler du match ce soir.
3,2 points. Non, ouais. Parce que j'ai dit qu'on parlera bien sûr du match nul de ce soir.
Non, mais pourquoi pas, écoute, exclure ça. L'important, c'est les trois points pour tout le monde, sauf pour coach Courbis, où bien sûr, c'est deux points.
Ben oui, donc ce qui concerne Paris Saint-Germain, on va avoir l'occasion de parler en détail. Je dis bravo Donnarumma. Ramos ou Colomani, ben ça, c'est pas facile de choisir. Pour ce qui est de Monaco, ben c'est extraordinaire ce football, cette victoire à 3 points, parce que tu as l'impression d'avoir gagné 1 point, alors qu'en vérité, tu en as perdu 2.
23h07, 32-16 sur tous ces sujets. 0-0 ce soir entre Monaco et Le Havre. Monaco, 3e de Ligue 1, 24 points, à 3 points du Paris Saint-Germain, à 2 points de Nice et 4 points devant Reims désormais. Le Havre, avec ce point, passe provisoirement devant Brest à la 6e place avec 15 unités. J'ai peur de commencer à chaque fois tous les soirs en ce moment, mais c'est pas grave, je vous le redis à tous, Kevin, Roland, j'ai mal à ma Ligue 1, encore une fois. On en a parlé hier soir.
Ouais. Moi je voudrais l'avis du coach.
Qui était pas là hier, effectivement. Ouais, vas-y Kevin.
Non, je disais je voudrais l'avis du coach parce que je te sens dépité Thibaut, mais comment tu vois ce début de saison? On voit les matchs, il y a moins de buts, mais est-ce que c'est pas parce que les défenses sont meilleures? Là, on voit un très bel arrêt du gardien là, en revoyant les occasions. Il y a quand même. C'est vrai que la Ligue 1 elle semble moins attractive que la saison dernière, par exemple, voire que la saison d'avant.
Largement.
Et on voit moins de buts. Mais est-ce que c'est parce que les équipes sont mieux organisées ou est-ce que c'est parce que les équipes ont du mal dans la phase de finition?
Ça peut être un peu tout, mais je me pose la question depuis cette intersaison où j'ai vu toute cette liste de joueurs talentueux partir en Arabie Saoudite, je me dis, est-ce que sans s'en rendre compte, ben, les effectifs ont perdu en qualité, mais ont perdu aussi en quantité. Les équipes, exemple l'OM, quand tu vois l'effectif de l'OM en quantité et en qualité de la saison dernière et celui de cette année, ben je pense que le niveau il a quand même baissé et c'est pas seulement pour le cas de l'OM. Donc la réponse je ne l'ai pas, mais effectivement je me pose la question moi aussi.
On y va sur ce Le Havre-Monaco 0-0, match bon très fermé, hein, très peu de spectacle. On a vibré les deux dernières minutes lorsque l'arbitre a accordé un pénalty un peu généreux peut-être.
Non, Le Havre. Non, il y a faute. Ah, ouais. Il se fait quand même marcher dessus. Enfin, attention, encore une fois, moi, ça c'est pas mon foot. Pour moi...
La faute, elle vient du coup de coude dans la gueule.
Je pense que c'est au pied, non?
Ah, il mange dessus plutôt. Ah, nous, on avait les yeux plutôt sur le coude, mais
je pense pas au pied.
En tout cas,
il était situé.
En tout cas, le problème, c'est que c'est ce que j'appelle des pénalties VAR. C'est-à-dire que ça n'existe pas dans le foot normal. À vitesse réelle, l'arbitre ne siffle jamais ce genre de faute.
Surtout pas, c'est pour ça qu'on le VAR a été mis.
À la dernière minute.
Non, mais encore une fois, Thibaut, ce qui était très très sympa dans le foot, et c'est pas pour reparler de l'arbitrage vidéo, mais ce qui est très sympa dans le foot, tu vas avoir un match de national, tu vas avoir un match de football amateur, par exemple, de bon niveau, et bah, c'est que le football, ça s'arbitre à l'instant. C'est une émotion de l'arbitre à l'instant. Comme a dit le coach, sur un moment du match, sur un déséquilibre, il peut y avoir des contacts dans le foot qui ne sont pas sifflés. Il y en a eu des millions. Donc, c'est pas parce qu'il y a un contact qu'il y a une faute.
Absolument.
Est-ce que le joueur qui subit la faute ou le contact, est-ce qu'il l'amplifie? Donc, c'est à l'arbitre de juger. Ça ne peut jamais être une image qui va te juger. Mais bon.
Pas jamais, ça peut l'être parfois.
Ça peut l'être. Voilà. Certaines fois, c'est assez clair.
C'est souvent quand même.
Mais tu ne pourras jamais juger un contact de savoir si le gars s'est laissé tomber ou s'il a amplifié la faute ou si c'est vraiment ce contact qui l'a déséquilibré.
Ça dépend des contacts.
Ouais, mais ça, tu me feras jamais changer d'avis. Ensuite, voilà, il y a, si on revient au match, il y a en effet une possibilité pour Le Havre. J'entendais dans les couloirs un braquage. Non, ça aurait pas été un braquage. On va dire que c'est un match qui est à 50-50. Mmh. On sait que si une des équipes marque, va dans les 30 dernières minutes, c'est souvent quand même que tu l'emportes.
Et puis surtout, ce soir, bon, il y a 0-0. La qualité du match, on la déplore. Mais après, il faut voir que ce match est entre un promu à vrai et une équipe de Monaco qui joue le podium. J'ai l'impression que c'est pas de la faute du Havre finalement, parce que là, fait pas un mauvais match.
Non,
je voudrais qu'on accueille Hakim,
un match correct.
Supporter monégasque. Salut Hakim, bienvenue dans l'after.
Salut mon pote.
Salut mon copain, toi aussi.
Salut Hakim.
Bon, Hakim, ce soir, la déception dans ce match-là, c'est pas le Havre, c'est Monaco quand même. Grosse déception ce soir.
Ah, franchement, grosse déception. On était plutôt bien rentré dans la saison, mais la vérité, ce soir, moi, j'ai pas senti Monaco sur de ses forces, quoi.
Oui, et puis surtout assez inoffensif.
Franchement, ouais, la vérité, on n'a pas dominé le match. Après, comme dit Roland Courbis, des fois dans les matchs, ben, si tu ne sais pas les gagner, il faut savoir ne pas les perdre. Hein. Mmh. Il vaut mieux des fois choisir la moins mauvaise solution.
Ouais, mais Hakim, quand tu es Monaco, que tu as l'effectif que tu as, que tu as les ambitions, le début de saison que tu fais, bon, tu joues au moins le podium, pour pas dire plus, et on parle d'ailleurs de Monaco pour plus souvent dans ce début de saison. Est-ce que tu peux te contenter d'un point chez le promu, quoi?
C'est vrai que si tu parles du plus, si on passe du côté plus, on va dire la vérité entre toi et moi. Si on joue le titre cette année, ben, c'est un match qu'on doit gagner. C'est très décevant de faire un match nul. Mais après, vu la physionomie du match, on n'a pas joué ce soir notre meilleur football et on prend un point.
Voilà. Non, mais après, sur la deuxième mi-temps, quand même les plus grosses occasions, même si on enlève le pénalty, elles sont quand même pour Le Havre, hein, parce que les deux face-à-face de Alioui, ouais. Piqué complètement raté, c'est des occasions qui sont énormes. Il y a le gros tacle aussi de Maripane qui revient.
Et celui-là, il aurait pu faire un pénalty aussi.
Je trouve qu'il prend le ballon.
Il prend tout. Il prend tout. Moi aussi, je trouve que le premier, il y a plus pénalty.
Si pour moi, c'est un bloc. Si tu sélectionnes que le ballon, voilà, Kevin, pas de problème.
Non, mais j'entends qu'il prend tout. Mais pour moi, avant de prendre tout, il prend quand même le ballon.
Tu vois. Oui, mais après il prend le reste aussi.
Ouais.
Bref, mais, en tout cas, il y a plus de
disons qu'on peut considérer que son intervention n'est pas très maîtrisée, mais je crois quand même que les Havrais vont avoir des regrets ce soir, hein, plus que les Monégasques.
Ah ben ouais.
Et parce que bon, déjà quand ton gardien arrête un penalty à la dernière minute, forcément, tu te contenteras du point du match nul. Mais c'est vrai que cette équipe de Monaco, moi de toute façon, je peux pas dire comme Hakim qui joue le titre.
Quoi, tu vois. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu depuis le début de saison, quand même.
Oui, non, mais que Monaco. Que Marseille, peut-être moins Nice, mais Lyon dans une autre époque. Mais c'est normal, ces équipes-là, où ces joueurs, avec leur salaire, avec le budget, ils jouent le titre. Après, tu sais qu'il y a un club qui est devant, qui est quand même au-dessus, avec des joueurs d'une qualité individuelle qui sont d'un autre niveau. Mais encore une fois, moi, je reproche à personne de jouer le titre, même sans le crier sur tous les toits, ou aux supporters de vouloir le jouer.
Les termes aussi. On peut tout simplement se contenter, quand on s'appelle l'OM, Nice, Monaco, eh bien, on peut dire qu'on joue la qualification pour la Champions League. Voilà. Mais le titre, il faut que Luis Enrique et le Paris Saint-Germain, avec cet effectif, fassent exprès de ne pas être champion, pour ne pas être champion.
C'est arrivé quelques fois, quand même.
Mais un soir comme ce soir, le PSG serait aidé par Monaco, quand même, de ne pas aller gagner au Havre, et en faisant cette prestation-là.
Écoute, chacun a sa vision des choses. Moi, je vois pas comment le Paris Saint-Germain peut ne pas être champion.
En tout cas, Monaco,
on ne voyait pas non plus l'année où Lille est champion, quoi.
Mais c'est difficile de
comparer. Et l'année dernière, Lens finit à un point.
Oui, attends, un point.
Ah, ils finissent à un point.
Ils finissent à un point parce que le Paris Saint-Germain, il s'en fout du dernier match pendant que Lens le gagne.
Quand même.
Sinon, ça aurait été 4 points.
Bon, la seule bonne nouvelle, et elle est d'importance, je le sais, pour les supporters monégas, c'est que bon, ton meilleur joueur ce soir, c'est ton gardien, c'est Keun, et ça n'a pas été souvent le cas ces dernières années. Voilà, on veut aussi revoir le verre à moitié plein côté monégas.
Ouais, pendant deux ans, Monaco a été handicapé par ce poste qui est pour moi un poste. Plus qu'important, on le sait, ce que je passe d'un gardien de but.
Et Monaco. Il fait un truc qui est fort, c'est qu'il capte le ballon en plus.
Oui. Oui.
C'est très rare.
Bon, après, le penalty n'est pas super bien tiré non plus.
Il n'est pas très bien tiré parce qu'il frappe fort au sol, mais il n'est pas vraiment dans l'angle, mais il y a quand même un bel arrêt du gardien.
Et Monaco qui ira après la trêve internationale au Parc. Hein. Ce sera le match de reprise dans deux semaines, le vendredi soir, Paris-Saint-Germain, Monaco.
C'est d'autant plus dommage qu'il n'ait pas gagné aujourd'hui.
Absolument. Merci Hakim d'avoir été là ce soir sur RMC. Et bon week-end à toi.
Merci à vous. Et je peux passer une dédicace, s'il vous plaît?
Allez, vas-y Hakim.
Franchement, Roland Courbis. Et je t'aime, je t'aime. Franchement, t'as joué à Toulon, à Marseille, et du Sud, je t'aime.
Tiens, adorable.
Merci, Hakim.
Hakim, je te fais une confidence. Nous aussi, nous aussi, on l'aime.
C'est beau. Franchement, il y a de l'amour ce soir. C'est génial. C'est que de l'amour. Baptiste nous appelle également, et il sort du stade Océane. Salut, Baptiste.
Salut.
Salut, Baptiste.
Et t'es super,
Baptiste.
Ah, vrai, Baptiste.
Ouais, tout à fait, ouais. Frustré.
Eh, ce penalty.
On peut pas tirer un pénal comme ça, c'est pas possible.
Tu as peur qu'il te manque 2 points à la 34e journée?
Non, mais ce qui est incroyable, c'est cette équipe en fait. Cette équipe, elle est incroyable. Franchement, on est tellement fiers de cette équipe. Enfin, on a bouffé du pain noir pendant des années. Et là, franchement, même si on verra ce qui se passe à la fin de la saison, mais quelle équipe! Et franchement, c'est un super groupe. Enfin, franchement, c'est une super équipe.
Franchement, bravo à Mathieu Bonnemer et à toute son équipe parce que c'est vrai que ça fait plaisir de voir déjà de voir un stade plein ce soir au stade Océane. Je crois que c'est la première saison que vous connaissez avec votre nouveau stade de la Ligue 1. Donc il y a le stade qui est plein, il y a des joueurs qui sont impliqués sur la pelouse, il y a un bon entraîneur, il y a donc je l'ai dit une direction qui est très très bien coordonnée avec une direction sportive à sa tête Mathieu Bonnemer. Mais moi ce que j'aime dans cette équipe, alors c'est je vais dire que c'est Reims mais à moindre échelle, mais c'est Reims il y a 2 ou 3 saisons ou 3-4 saisons quand ils sont remontés, on voit que ça travaille bien, qu'il y a des idées. Moi je suis très très curieux de voir ce que va donner André Ayew avec le maillot du HAC, en tout cas la présentation. Il y a des idées, franchement.
Tu penses quoi, c'est une bonne idée ça pour le Havre?
Moi, j'avoue que je l'ai moins vu jouer ces dernières saisons.
C'est un pari, quoi, quand même.
C'est une bonne idée, quand même. C'est un mec qui a toujours été un soldat. C'est un mec qui connaît quand même bien la Ligue 1, qui vient de Première Ligue. Bon, il a encore du football et surtout, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit irréprochable.
Coach André Ayew, Havre.
Oui, on va pas lui demander non plus de jouer 95 minutes tous les matchs. Je crois que c'est une bonne arrivée. dans l'ambiance du vestiaire, dans les discussions qu'il pourra avoir avec les jeunes joueurs ou les inexpérimentés de Ligue 1. C'est un changement dans notre époque, je le dis et je le redis sans arrêt. Mais je trouve très intelligent d'avoir récupéré ce joueur pour lui faire faire, dans un premier temps, des parties de match. 30 minutes, 45 minutes, et surtout cette présence à l'entraînement tous les jours, je trouve top.
Le Havre 6e en attendant les matchs de demain, Baptiste, si ça continue comme ça, tu vas te maintenir sans trembler, quoi.
Ouais, alors bon, il reste du temps, là on a des gros matchs devant nous quand même, mais juste on vit un kiff total en fait, c'est super. Enfin, franchement, ça fait 15 ans qu'on est en Ligue 2. Là, on joue, on peut même battre Monaco parce que franchement, au-delà du péno, sérieux, on a quand même des occasions où on peut aller chercher la gagne plus que, j'ai l'impression en tout cas.
Qu'est-ce qu'il nous fait avec son piqué raté là, votre
attaquant? Ah là là, oui. Enfin, moi, j'étais de l'autre côté, j'ai pas bien vu, mais il m'a rendu fou. Mais en tout cas, on a une super équipe et franchement, au milieu de terrain entre Kouzaïef, c'est un régal en fait. Juste, il faudrait faire rentrer Kechta un peu parce que Kechta, c'est quand même un sacré joueur aussi.
Et ouais, il est rentré en fin de match, ouais.
Ouais, mais là, il a joué deux minutes, mais quand il joue la semaine dernière, quand il jouait, en tout cas, on est une super équipe et il y a moyen d'aller chercher quelque chose, de maintien, hein, on cherche rien de plus, hein. Enfin, toi, après, si on a plus.
Ah, tu joues pas le titre?
Non, déjà, et puis, même la Conference League, franchement, on la joue pas, je pense, mais on s'en fiche, en fait, on prend du plaisir sur le terrain parce que ça joue bien. Enfin, moi, je trouve, ça doit être, chiant pour ceux qui supportent pas parce que c'est un vieux 0-0, mais. Ça joue quand même, on n'est pas une équipe qui bétonne derrière on essaie de se projeter. Après, bon, on est limité, évidemment,
C'est ce qu'on a dit pendant le direct, c'est qu'effectivement, match pas fou, mais en fait, la grosse déception, c'est Monaco, parce que le Havre face fait son match avec ses armes. Merci Baptiste, bon week-end.
Bon week-end à vous.
À bientôt.
Salut Baptiste.
Bye bye. Merci d'avoir été là. 23h19, l'after en direct sur RMC avec Coach Courbis, avec Kevin Diaz jusqu'à minuit dans un instant. Le Paris Saint-Germain au programme leader. Et ce sera le cas quoi qu'il arrive à l'issue du week-end. C'est fait. Et c'est la première fois de la saison. Après sa victoire contre Reims 3-0, triplé de Mbappé. Mais Luis Enrique, pas content du match de Mbappé. On écoute Luis Enrique, on en débat avec vous, mes Parisiens, au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Thibaut Giangrande.
23h24, l'after avec Coach Courbis, avec Kevin Diaz en ce samedi 11 novembre. Merci d'être là. À l'écoute, en ce samedi soir, à l'écoute à la radio sur RMC. Peut-être pouvez nous regarder également sur YouTube la chaîne vidéo de l'after, @after-foot. Vous pouvez nous mettre sur votre télé et il y a beaucoup de messages. Vous êtes de plus en plus nombreux dans le chat ce soir. Merci à vous d'être là. Le 32-16, bien sûr,
pour venir débattre de l'after. C'est sympa YouTube.
Ah, carrément.
Moi, je regardais ça, c'était quand que j'étais pas dans l'after, c'était donc jeudi.
Tu l'as mis sur ta télé ou sur le portable?
C'était dans la télé.
Télé connectée, tu as l'appli,
L'appli YouTube, ouais. Et puis tu regardes l'after à la télé, tranquille.
Et en plus, pendant les pubs radio, on est là avec vous,
magnifique.
Le chat. 32-16 supporters parisiens après la victoire contre Reims cet après-midi, 3-0. Paris, leader de Ligue 1, est assuré de l'être désormais puisque Nice n'a pas gagné hier. 27 points, 1 point d'avance sur Nice et 3 désormais sur Monaco pour le Paris Saint-Germain. Triplé de Kylian Mbappé. Et après le match, Luis Enrique s'arrête au micro du diffuseur dans un premier temps pour dire « Je ne suis pas vraiment content de Kylian Mbappé. Sur les buts, je n'ai rien à dire, mais il peut aider l'équipe davantage dans une manière différente. » Ça, c'est ce qu'il dit au micro du diffuseur. Et puis, il rentre dans le stade, dans les coursives, il va en conférence de presse et il réitère face aux médias, Luis Enrique au micro d'Arthur Perrault.
Et si me preguntas por Kylian,
concernant Kylian, en termes de buts, je n'ai rien à ajouter, on connaît sa valeur. En revanche, je lui en demande encore plus dans le jeu. Je sais qu'il est capable de faire mieux qu'aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, mais il a encore une marge de progression. Je ne veux pas qu'il se repose sur ses lauriers, il doit encore s'améliorer et aider ses coéquipiers.
Voilà Kylian Mbappé qui lui est passé en zone mixte avec le sourire, qui a parlé après la rencontre. Il a rien dit de spécial à Paris. Ce qu'on a comme info ce soir, c'est qu'on parle d'un discours pour continuer d'encourager le joueur, le piquer un peu et continuer de l'encourager. Mais voilà ce que nous dit l'entourage du club, 32-16 supporters parisiens.
Du coup, juste Thibaut, on débriefe le match ou on débriefe d'abord la sortie de Luis Enrique?
En fait, c'est lié.
Ouais.
Donc, c'est très lié.
Absolument.
Absolument
parce
lié.
Parce que moi, je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça exceptionnel parce que déjà, c'est rare de voir un entraîneur du Paris Saint-Germain critiquer.
Aussi prétentieux, c'est rare, oui.
Non, mais pas, le coach sera pas d'accord avec moi alors. Mais moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien parce que je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que bien sûr Kylian Mbappé il met 3 buts dont le premier qui est extraordinaire, même le deuxième avec cet appel contre appel. Mais moi je pense comme Luis Enrique qu'il peut progresser. Et aujourd'hui Kylian Mbappé il est à un moment de sa carrière où non seulement il peut mais il doit progresser. Il doit progresser sur plein d'aspects et je pense que Luis Enrique est un entraîneur qui peut faire progresser n'importe quel joueur, même si c'est un joueur de très haut niveau. Et j'aime bien ça parce que ça veut dire quand même qu'il y a enfin un entraîneur au PSG qui sait que peu importe ton statut, peu importe même tes performances, parce que c'est un bon match en soi. En tout cas, statistiquement parlant, pour Kylian Mbappé. Mais c'est bien quand même de voir un entraîneur qui se dit, voilà, j'ai un des meilleurs joueurs du monde, il fait un bon match statistiquement, mais je pense que dans le jeu, il peut progresser, il peut s'améliorer et il peut aider à encore mieux faire jouer l'équipe.
Et tu penses qu'il ne nous prend pas pour des cons ?
Non, je pense qu'il le pense.
C'est-à-dire que tu penses que cette déclaration au sujet d'Mbappé, quand tu viens de gagner un match à Reims, et que Kylian Mbappé qui peut faire plus, évidemment, il peut en marquer 5 aussi.
Non, il parle pas des buts quand il parle du jeu.
Oui, mais attends. Si on essaye un petit peu de réfléchir, ben moi j'ai ma vision. C'est peut-être pas la bonne, c'est une de mes phrases préférées, mais c'est la mienne. Je pense qu'il nous prend pour des cons.
Mais pourquoi ?
Et qui nous déroute sur justement un match où il va lui être reproché logiquement cette composition d'équipe encore en 4-2-4. Et quand tu es entraîneur de Paris Saint-Germain avec l'effectif que tu as et que ton meilleur joueur c'est un Donnarumma qui te fait 6 miracles, évidemment tu déroutes tout le monde en parlant d'Mbappé qui malgré son intrigue doit pouvoir me faire merci, mais au revoir, je rentre chez moi, je vais prendre la douche. Là sincèrement, excuse-moi, c'est peut-être mon expérience, c'est peut-être ma façon de voir les choses. Je ne tomberai pas dans ce panneau-là. Désolé les amis.
Ahmed est là au 32-16 supporters parisiens. Salut Ahmed, bienvenue sur RMC dans l'After.
Salut Yann, merci de la parole.
Avec grand plaisir, merci de nous appeler. Ahmed, qu'est-ce que tu as pensé toi de la sortie de Luis Enrique, mérité ou pas pour Mbappé?
C'est 50-50, je suis d'accord avec vous deux, avec le coach aussi. Son système, il est claqué au sol en 4-2-4, on prend l'eau pendant une mi-temps. Si franchement on est mené 2-1, c'est pas volé. Reims, c'est un braco ce qu'on a fait aujourd'hui. 3-0, hein, parce que.
Ah oui, 3-0, c'est très très flatteur.
Attends, si je suis à la place de Reims, je prends un marteau, je me mets un coup sur la tête.
Ah oui, la moitié d'équipe doit se suicider ce soir. Ils ont archi dominé. Donc, au lieu de se remettre en question à la mi-temps, bien avant la mi-temps, et de repasser en 4-3-3, ou je pense qu'il est passé en 4-4-2 à la deuxième mi-temps. Non, il attend une mi-temps, on prend l'eau, il regarde, il reste fort dans ses idées. Et il n'y a qu'à la mi-temps qui commence à changer et fait rentrer Vitinha. Et là, tout de suite, on reprend l'équilibre. On voit que cette équipe, elle est au-dessus de Reims. Et en deuxième mi-temps, on en met 2. Mais monsieur, il faut 45 minutes pour décider. Là où Galtier, Laurent Blanc, ils auraient décidé en 10 minutes. C'est scandaleux. Et d'un autre côté, il n'a pas tort. C'est vrai que dans son système, Mbappé ne défend pas du tout. Donc il est pas content. Et donc il se plaint. Je pense qu'il est un peu sincère. Il veut plus d'efforts défensifs d'Mbappé. Mais bon, ton système, il est à l'envers. Il ne sert pas Mbappé non plus. Alors.
Mais écoute, ce que fait Mbappé dans ce match-là, déjà, il y a les 3 buts, on appelle ça un hat-trick. Quand on voit le déplacement offensif d'Mbappé, notamment sur le premier but, c'est un déplacement, tout simplement, c'est une perfection ce déplacement. Pareil quand Barcola déborde. Après, que tu puisses tranquillement discuter avec Mbappé en tête à tête demain dans ton bureau. Mais après le match, quand tu es Luis Enrique et qu'on te pose, on te pose une question, la réponse que tu donnes, c'est le problème, c'est Mbappé. Mais non, le problème, c'est toi, mon chéri Enrique. C'est toi.
Non, mais il a pas dit le problème, c'est Mbappé. Il a
c'est
dit...
moi que je rajoute, tu sais que je suis d'une région où on exagère, eh ben j'exagère. Okay. Et peut-être là, aussi, me trompe à 100% quand je pense que Enrique, il essaye de nous faire une fausse piste au premier poteau pour aller au deuxième poteau et que nous, on tombe dans le panneau comme des cons en disant, oh, c'est vrai, il défend pas ce Mbappé. Mais non, si je suis entraîneur, je vais pas me citer un exemple, je te dis ce que j'aurais fait avec Mbappé. Interdiction de défendre, ouais, Kylian. Repose-toi tranquillement devant. Et s'il y a un de tes coéquipiers, s'il y a un de tes coéquipiers qui est pas content, eh ben qu'il fasse autant que ce que tu peux faire sur un terrain de football, et il aura l'autorisation lui aussi de pas défendre.
Quel joueur a gagné la Ligue des Champions sur les 10 dernières années et ne défendait pas dans son équipe?
Eh ben s'il y a une équipe avec un Mbappé
qui comme ça je sais pas
le Real, Barça 2015 par exemple.
OK. Le Barça 2004, tu crois que Messi il défend pas? Bah, je t'invite à regarder les matchs. Oui, certes, bah, c'est pas un arrière-droit, voilà, mais c'est un mec qui ferme les espaces, c'est un mec qui fait un minimum.
On va pas se disputer sur la façon
Messi
de défendre.
Gagné la Coupe d'Europe.
Quand tu as un Mbappé qui est quand même dans une saison, et le pire. Ce qui va encore arriver, on va discuter toutes les semaines dans pas longtemps. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va pas rester? Est-ce qu'il va faire le championnat d'Europe avec le maillot du Paris Saint-Germain? Disons que la situation d'être au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui,
il n'a pas dit que c'était le problème du PSG non plus.
Mais Mbappé, pour moi, aujourd'hui, si après un hat-trick, avec des choses, malgré ce hat-trick qu'il faut améliorer, c'est la seule chose que tu as à nous dire après le match. Eh bien, tu me prends pour un con.
Mais c'est pas la seule chose qu'il a dit.
Tu me prends pour un con. Tu essayes de me prendre pour un con, c'est pas pareil.
Non, mais coach, c'est pas la seule chose qu'il a dit. Là, on parle de ça parce que c'est sûr qu'Kylian Mbappé, après un triplé, bien sûr qu'on a tous vu le match de Kylian Mbappé. Son but, il est extraordinaire, le premier.
Mais on a vu le match de Luis Enrique aussi.
Oui, non, mais d'accord. Le match de Luis Enrique.
Ton meilleur joueur, c'est Donnarumma, il fait 6 miracles.
Oui, non mais d'accord, mais ça c'est aussi dû à l'adversaire.
Et tu nous parles d'Mbappé parce que tu as peur qu'on te pose la question.
Mais parce qu'on lui a posé la question.
Est-ce que vous êtes satisfait de votre choix et qui c'est le meilleur entre Ramos et Colomouani.
C'est trop énervé.
Mais non, mais évidemment ça m'énerve. Tu me prends pour un con, ça m'énerve.
Ahmed.
Pas moi.
Ben évidemment pas toi.
Ouais. Bon, c'est limite en tout cas, Kevin. Ahmed.
Il faudra mettre 4-5 euros dans la canette de l'after.
Ouais, 32-16, hein, si vous voulez venir réagir. qu'est-ce que tu as pensé, notamment dans ce match, on parle beaucoup de Mbappé. Il met son triplé, il y a ses déclarations, mais Roland en a parlé. Le match de Donnarumma, c'est quand même quelque chose. Mais est-ce que quand tu vois ce match, tu te dis, match exceptionnel, mais j'aurais quand même peur dans 3 semaines contre Newcastle?
Ah, bien sûr que j'aurais peur, parce que il faut quand même noter que Barcola et Soler font des bonnes entrées et ils comprennent parfaitement les appels contre appels d'Mbappé. Eux aussi, ils ont fait un bon match. Hein. Ça aide aussi Mbappé à être un bon buteur. Mais ouais, Donnarumma, il fait 6 arrêts sur la ligne, il nous sauve. Bah, je vous avouerai que, bah oui, il est fort sur sa ligne. De toute façon, il quitte jamais sa ligne. Donc, je suis bien content qu'il soit fort sur sa ligne. J'aimerais qu'il sorte aussi.
Il faut bien qu'il soit fort dans un domaine. Parce que la relance sur Ruiz en première mi-temps, sur la récupération du Rémois qui tire juste à côté, tu sais, il est au sol, il se relève. Elle est incroyable. Franchement, cette passe, il n'a pas le droit.
Contre Milan, il fait un pas en avant dans les 6 mètres. L'autre, jamais, il centre sur Giroud. Il se dit, il va l'intercepter. Mais non, il reste sur sa ligne. Ah bah, je centre, tête but. Donc, ouais, il est bon sur sa ligne. Mais c'est un gardien qui sort jamais et en plus au pied il est vilain.
Après pour répondre au coach, moi encore une fois le match de Kylian Mbappé aujourd'hui je le trouve bon, mais est-ce que c'est pas aussi, et je te pose la question à toi aussi, une façon pour Luis Enrique de parler des dernières prestations de son équipe,
de nous dérouter. Non mais
coach, au Milan il y a eu quand même des soucis aussi pour le PSG, bien sûr là il gagne à Reims 3-0, mais le coach quand il fait peut-être un débrief du match de Reims, il fait aussi un débrief du match de la semaine ou du match de Ligue des Champions en même temps. Donc
mais après Roland, sur le fait de pouvoir critiquer Mbappé, on a suffisamment tous
tapé. C'est des axes d'amélioration.
Oui, mais après un triplé, bah, non, de dire ça, c'est quand même pas anodin. Ce que je veux dire, c'est qu'on a suffisamment tapé sur les coachs du Paris Saint-Germain qui sont passés. Exactement. En disant, ils disent rien. Même quand le match est pourri, c'est formidable. Il est laissé au terrain.
Moi, je préfère qu'on dise rien qu'on me prenne pour un con.
Et dans l'optique où il te prend pas pour un imbécile, Roland, Luis Enrique, le fait de pouvoir piquer un joueur qui met son triplé mais qui fait pas le match que t'attendais, ça tu le conçois pas?
Mais non,
on
est hors sujet. Si par exemple il y a ce problème là que effectivement Mbappé, il a de gros défauts et qu'il faut les améliorer et tout ça. Eh ben, tu protèges Mbappé et tu le vois demain en tête à tête tranquillement. Parler d'Mbappé après un hat-trick de Mbappé, quand tu as Donnarumma qui te fait six miracles, eh ben, tu me prends pour un con. Je vais pas le dire toute la soirée.
Non, on va arrêter. Et d'ailleurs, il te prenait plus pour un imbécile. D'ailleurs, tout bien regardé. Ahmed, merci d'avoir été là ce week-end.
Merci,
possible. À bientôt.
Pour les deux.
Bye bye, Ahmed. À bientôt. Zach nous appelle au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. Salut, Zach.
Alors non, du tout supporter de l'OM, mais bon, ça m'empêche pas de réagir.
Ah bon, sur ta fiche, il y a écrit supporter PSG, mais vas-y, Zach.
Il s'est trompé, je pense. C'est pas ouais.
Il est cramé, hein, c'est Adrit, il est fatigué, c'est pas grave.
Mais en fait, je suis d'accord avec Coach Courbis. En fait, je pense que Luis Enrique, il nous prend pour des cons, mais en même temps...
On va dire des imbéciles maintenant, ok?
Ouais, des imbéciles. Mais en même temps, comment dire? Ça veut dire que pour lui, en fait, Mbappé, il a fait un bon match. À partir du moment où tu mets 3 buts, normalement, t'as pas le droit normalement de critiquer presque l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais en même temps, il se dit que s'il ne parle pas devant la presse et qu'il lui parle en tête à tête, il ne saurait pas le même effet, en fait. Donc, devant la presse, il lui met une pression. Il est en train de lui dire que, voilà, mon système de jeu, il est comme ça. Et je voudrais que tu l'appliques, malgré que tu aies mis tes 3 buts.
Et au fait, une question que je vous pose à tous. Mbappé, devant la presse aujourd'hui, vous ne l'avez pas trouvé très bon? Quand par exemple, il dit à la presse... Ben non, j'ai rien à rajouter, tout ça. L'air de dire, vous le faites très bien. Là, il est un petit peu ironique. Et il sait très bien que dans les semaines à venir, ça va être très compliqué pour lui dans sa relation avec la presse par rapport à son avenir. Est-ce qu'il sera en France au Paris Saint-Germain ou est-ce qu'il sera ailleurs? Et aujourd'hui, moi, je après un hat-trick, se retrouver en train de dire non mais ça va, je l'ai trouvé mignon tout plein.
Mais encore il a dit c'était au micro de Prime, le diffuseur, il est pas passé en zone mixte, mais au micro du diffuseur il a dit, je cite, le plus important pour moi c'est ce que je voulais, c'était jouer au foot. On lui demandait s'il avait digéré son été, il dit le reste je vous laisse faire, vous le faites bien, je n'ai pas envie de parler de suralimenter des choses, je pense qu'il y en a déjà assez.
Mais ça, encore une fois, il a été très bon comme petit coach dans sa réponse. Mais bon, encore une fois, je pense que c'est vraiment pas contre Kylian Mbappé. Je pense que Luis Enrique, il pense qu'il a dit. Peut-être qu'il y a un peu de communication, comme dit le coach, certes. Mais je pense qu'il est vraiment sincère quand il dit que pour lui, Kylian Mbappé a des axes d'amélioration et peut progresser pour faire encore mieux jouer l'équipe. Mais ça, c'est pas une critique envers Kylian Mbappé, je pense. Puisque je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Guardiola, c'est un bon coach, même si je pense qu'il peut avoir des côtés agaçants. Mais Guardiola, après la victoire, non, je finis juste, après la victoire face à Manchester United, alors que Haaland venait de marquer un but, ou deux même, je crois, eh bien, il a discuté avec le Norvégien tout de suite en marchant au vestiaire pour lui dire tiens, t'aurais pu faire ci de mieux, t'aurais pu... Il y a même les grands joueurs, les grands entraîneurs comme Guardiola, il y a toujours des axes d'amélioration. Donc je vois pas en quoi ce serait forcément que de la communication pour nous prendre pour des idiots.
Après, Kevin, ce qu'on peut aussi débattre avec monsieur Luis Enrique, c'est sur ses compositions d'équipe, sur l'équilibre de ses compositions d'équipe ou ses déséquilibres plutôt, et aussi sur l'utilisation de Mbappé. Avant de dire qu'Mbappé, il doit en faire plus, explique-nous comment tu l'utilises, Mbappé. Qu'est-ce que tu lui demandes et qu'est-ce qu'il fait pas par rapport à ce que tu lui demandes? Mais moi, j'essaie de comprendre, j'arrive pas. Et comme je dis, on progresse à tout âge, j'ai envie encore de progresser.
Oui, mais coach, il parle italien, il parle pas espagnol.
Eh ben oui, exactement.
Je remercie Zach d'avoir été là.
Je le sais pas dire, t'as vu.
Bon week-end, Zach, et bon match demain. Hein. Lens Marseille sur RMC demain soir à partir de
20h30. Ouais, j'aurais juste une petite question.
Vas-y.
Si vos intervenants peuvent répondre. En fait, à partir du moment où on sait très bien que Luis Enrique et Guardiola, bon, c'est des super coachs, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus.
Ah, mais là-dessus, en fait, tu ne m'entendras pas dire le contraire.
Mais pourquoi ce besoin qu'ils ont, en fait, d'avoir les caméras avec eux, en fait?
Eh bien, on appelle ça, tu sais, dans quelle catégorie mon grand-père, il les mettait, ces gens-là? Dans la catégorie des faux modestes.
Merci Zach, voilà la réponse. À bientôt et bon week-end à toi.
Salut Zach, je suis même pas sûr qu'il soit vraiment modeste.
Tu sais, il rajoutait aussi un faux modeste, c'est un vrai prétentieux. Donc si des fois vous n'avez pas compris.
Pour conclure, un mot de Reims, parce qu'on parle beaucoup de Mbappé, mais la conséquence aussi de ce match du Paris Saint-Germain et de Mbappé, c'est l'excellent match de Reims. Alors oui, à la lecture du résultat, ça fait 3-0, triplé de Mbappé, mais Reims a fait un bon match. Reims a été chercher le Paris Saint-Germain. Oh, il y a eu des occasions, il y a eu des 19 tirs pour le stade de Reims. C'est dur à dire après une défaite 3-0, mais on n'est pas déçu par Reims, quoi.
Même eux, ils doivent, d'après moi, en sourire de cette défaite. Et l'entraîneur que je considère comme un très bon entraîneur dans notre championnat, il doit leur dire continuez à faire des matchs comme ça, vous verrez le nombre de fois que vous perdrez.
Oui, c'est sûr, parce que franchement, ils ont été impressionnants, un pressing haut. Après, de toute façon, face au, je me disais, si tu joues contre le PSG, autant les presser haut, puisque de toute façon, il y a personne qui peut dévier des ballons de la tête. C'est pas les meilleurs pour garder les ballons dos au jeu. En l'occurrence, là, c'était Kylian Mbappé souvent qui était en pointe ou un peu esselé. Donc, autant les presser, parce que c'est ni Dembélé ni les attaquants parisiens qui sont vraiment. Il y a pas d'Olivier Giroud, puisqu'il y a pas de pivot dans cette équipe. Il y a pas de vrai numéro 9. Qui s'est capable de garder les ballons. Donc,
et Ramos, mais il est sorti à la mi-temps.
Voilà, ils ont bien pressé, ils ont agressé.
Et Ramos,
et ils ont récupéré des ballons.
C'est pratiquement rarement utilisé. On fait passer Colomani avant lui. Il a la possibilité là de marquer des points. Et tu le sors au bout de 45 minutes. Bon, ben écoute, il y a des choses qui nous échappent.
Après, ils sont pas bons aussi, Colomani et Ramos, pour l'instant.
Allez, on s'arrête là, les gars.
Il y en a un qui est préféré que l'autre. Reims, et le préféré, c'est Colomani.
Qui ira à Rennes après la trêve. Le Paris Saint-Germain recevra Monaco, donc au classement.
Reims, le préféré, ce sera peut-être Asensio.
Toujours quatrième. Oui, probablement. Le préféré de Luis Enrique, en tout cas.
Oui, pas impossible du tout, ça.
23h42, l'after en direct jusqu'à minuit avec Coach Courbis, avec Kevin Diaz et les drôles de dames. Dans un instant, on va parler de certains adversaires de nos clubs français en Ligue des Champions avec Johan Crochet, le Milan notamment, le Bayern, le Borussia Dortmund avec Paulo Breitner. On est là en direct jusqu'à minuit. Merci d'être sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
23h48, nous sommes samedi le 11 novembre. J'espère que tout va bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée à l'écoute d'RMC. Kevin Diaz et Coach Courbis sont là. Débat animé ce soir, vous allez retrouver tout ça en podcast si vous arrivez tout juste, concernant Mbappé, la sortie de Luis Enrique notamment. Et j'accueille avec plaisir la moitié du casting des drôles de dames. Paulo Breitner est là, salut Paulo.
Bonsoir mon cher Thibaut, bonsoir tout le monde.
Et Yoann Crochet, salut Yoann.
Bonsoir messieurs.
Bon, ça va, on a raccroché YouTube Yoann ou pas?
Salut Yoann.
On a raccroché YouTube.
Je précise qu'on est toujours en direct vidéo sur la chaîne de l'After, que Yoann Crochet est là aussi sur YouTube dans le chat. Et c'est hyper interactif et c'est aussi l'avantage de ce...
Non, j'allais dire du coup, pour enchaîner, mais du coup Polo, il l'a essayé, il découvre Harry Go Machine Kane.
Ah.
Quel joueur de foot.
Polo, tu découvres alors ?
Quelle légende ! Non, mais je veux dire sur le. Ça y est, c'est il est lancé.
Années quand même déjà.
Ça y est, il est lancé.
Non mais alors. Et ce qui est sûr, ouais. Oui, c'est qu'il est lancé au Bayern. Ça, c'est une évidence. C'était pas forcément évident sur les premiers matchs, même si évidemment, il a des gestes de classe mondiale qui font que il avait. Moi, je me rappelle très bien contre le match contre Brême, c'est lui qui sur un petit coup, une petite passe, une déviation permet l'ouverture du score. Mais on attendait vraiment qu'il s'installe complètement et. Et en Allemagne, on dit évidemment que c'est la pièce manquante au puzzle qu'on n'avait pas au Bayern Munich depuis le départ de Lewandowski. Le match en lui-même ne fut pas extraordinaire parce que les équipes sont rincées, mentalement les joueurs sont fatigués, le Bayern y manque énormément de personnes. Mais quand t'as un joueur, un neuf de cette classe-là qui est devant et qui ouvre le score comme il faut, ça aide beaucoup à finir des périodes toujours un petit peu délicates en ce moment à cause des calendriers surchargés. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour la deuxième partie de saison si on se projette un petit peu sur ce qui va se passer.
Oui, parce que là, doublé aujourd'hui pour Harry Kane, victoire du Bayern 4-2 contre Heidenheim, 17 buts en 11 matchs de championnat.
On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que
ça fait peur.
Moi, je suis même vraiment impressionné parce que on parlait souvent quand on comparait Lewandowski avec Harry Kane, on disait souvent que le vrai pur buteur complètement, c'est Lewandowski et que Harry Kane a une palette un peu plus large qui lui permettait de faire aussi des passes, des déviations, etc. Et en fait, il continue à marquer d'une façon extraordinaire et surtout, il est en avance sur les tableaux de marche de ses prédécesseurs. Et ses prédécesseurs, c'est pas n'importe qui. C'est donc Lewandowski qui a le record de buts sur une saison en Bundesliga 41 et qui avait battu le fameux record de Gerd Müller qui datait de 1972. Et là, on est à 17 buts en 11 rencontres. Il met des doublés, des triplés à chaque match. Il va, on lui offre pas en plus. Il va les chercher.
Il tire les pénalties aussi.
Ouais, c'est ça. Mais en plus, il va les chercher. C'est ça qui m'intéresse par rapport à Lewandowski. Lewandowski, il pouvait marquer quand il y avait 3, 4, 5, 0. Non, lui, il ouvre en plus le score. Et ça, c'est ça qui m'intéresse chez Harry Kane. Donc encore une fois, le match de cet après-midi n'était pas extraordinaire parce que il manque beaucoup de personnes au Bayern Munich.
Ah, là, s'il avait eu Luis Enrique comme entraîneur, il a engueulé, je te le dis.
Thomas Tuchel, d'ailleurs, a fait une déclaration d'après-rencontre, une de plus, où il râle après le calendrier qui est plus possible, etc. et que les joueurs sont complètement cramés. Mais c'est vrai que quand tu vois l'adaptation d'Harry Kane, de l'anglais, au Bayern Munich, c'est que semaine après semaine, c'est de mieux en mieux. Donc, souhaitons-lui qu'il ne lui arrive rien du tout lorsqu'il va retourner en équipe d'Angleterre, qu'il continue sur ce rythme-là, parce que c'est vraiment alléchant sur ce qui va se passer sur la deuxième partie de saison.
Paulo, dans un instant, tu nous parleras du Borussia Dortmund, adversaire du PSG dans quelques semaines en Ligue des Champions, battu aujourd'hui, mais d'abord l'AC Milan, adversaire du PSG cette semaine, Johan. Bon, ça, on a l'impression que ça allait bien, ça allait mieux face au Paris Saint-Germain. Finalement, pas totalement guéri. 2-2 à Lecce et match vraiment de fou, en fait.
Ouais, c'est ça. Enfin, on avait l'impression que ça allait mieux même jusqu'à la 50e minute où, au retour des vestiaires, alors que Milan menait 2-0 et était, je veux pas dire confortable, parce que t'es jamais vraiment confortable à Lecce et même à l'extérieur. On l'a vu la semaine dernière à Rome quand il menait 1-0 sur la pelouse de la Roma et finalement il s'est incliné avec 2 buts dans les arrêts de jeu. Cette équipe-là t'agresse entre guillemets sans arrêt, vient te chercher, met beaucoup de densité physique dans les duels et ensuite part très vite en transition. Et donc t'es jamais vraiment tranquille parce que tu sais en plus qu'ils ont des ailiers. Alors un coup c'est Banda, un coup c'est Strefeza, un coup c'est Almqvist, le Suédois, qui vont très très vite, qui vont extrêmement vite et qu'on les sert rapidement en transition pour ensuite avoir une projection, notamment des milieux qui accompagnent. Et ils ont un neuf, Krstović, qui est vraiment intéressant, je trouve, même si son nom est pas facile à prononcer. donc t'es jamais tranquille, mais ils géraient bien leur affaire. Ils avaient marqué 2 buts, ouais, c'était assez serein. Ouais, c'est ça. Et puis même ils ont des occasions en tout début de seconde mi-temps de vraiment boucler le match, c'est-à-dire de mettre le troisième. Il y a Théo qui fait un énorme déboulé à gauche et qui, bon, sert pas vraiment qu'il fallait dans l'axe et qui parvient pas à transformer un peu cette action-là. Et derrière, t'as un espèce de blackout qui est assez régulier, je trouve, cette saison à Milan, que j'ai du mal à expliquer parce que c'est un peu des sortes de sauts de concentration, je sais pas, des espèces de petits blackout comme ça, réguliers, et en 4 minutes, tu prends 2 buts, et finalement, même Lecce, au-delà même de la dernière action du match, on va en parler, avec le but annulé, qui était un but absolument magnifique à Piccoli, mais au cours de la deuxième mi-temps, après l'égalisation, Lecce est beaucoup plus proche du 3-2 que Milan du 3-2, donc c'est assez décevant, parce que t'as l'impression qu'un match pouvait lancer un petit peu une nouvelle série avec le Paris Saint-Germain, et puis là,
en plus,
c'est pas bon.
Giroud prend rouge, Léao sort blessé, et dans tout ça, Yo, est-ce que dans un peu plus d'un mois, là, quand le Pioli, on retourne à la Ligue des Champions, est-ce que Pioli sera toujours sur le banc, on commence à se poser la question là, ou après ce
non, je pense pas, parce que la victoire du milieu de semaine lui a apporté quand même beaucoup de crédit. Finalement c'était un match qui a été quand même plutôt bien géré par le Milan. Effectivement, t'as dit la blessure de Léao, on sait pas encore exactement, on attendra les examens demain, mais quand tu commences à avoir une blessure musculaire sur une accélération derrière la cuisse, c'est quand même pas très bon signe.
Mais je crois que digérer le gros match qu'il a fait 3 jours avant, c'est peut-être pas si facile que ça.
Et puis Giroud, ça m'étonnerait qu'il prenne un seul match, parce que généralement les contestations, s'il y a eu insulte ou ce genre de choses-là, ça peut prendre 2 matchs facilement. Donc les Milanais diront qu'au retour de la trêve, il aura un petit week-end tranquille pour se préparer pour le gros match de Dortmund en Ligue des Champions, puisqu'il ne jouera pas contre la Fiorentina, ce sera pas un match facile non plus celui-là. Mais effectivement, au-delà même du résultat, t'as plein de mauvaises nouvelles partout ce soir à Milan, alors que c'était le feu total en milieu de semaine.
Et la seule bonne nouvelle peut-être du jour, c'est que ce Dortmund qui arrive en Ligue des Champions, Polo, a perdu encore aujourd'hui, battu par le Stuttgart de Guirassy de Buzyn.
Avec le retour de Guirassy.
Il est rentré et a marqué.
Exactement, mais en plus, c'est une défaite plus que logique, c'est-à-dire qu'on a retrouvé un mauvais Borussia Dortmund, qui avait pourtant le même 11 de départ que celle qu'il avait remporté contre Newcastle en milieu de semaine. C'était dingue. Première demi-heure, il y a 10 occasions à 0 pour Stuttgart. Alors Stuttgart est certes la surprise de la saison, hein, puisqu'ils sont dans le triplé de tête pour le moment. On en a parlé souvent dans l'after, mais c'est quand même pas non plus un feu de dieu. Donc on se rend compte que ce Borussia Dortmund est toujours extrêmement fragile. Il y avait rien, il y avait plus rien dans les chaussettes, notamment en première mi-temps. Et la défaite l'équipe était complètement lymphatique et c'était dramatique. Ils ont quand même réussi à ouvrir le score. On ne sait même pas comment. Mais ça n'a pas tenu en deuxième mi-temps contre le VfB Stuttgart. Et c'est quand même la deuxième défaite de suite. Ils ont perdu 6 points d'un coup sur ces deux rencontres face au Bayern Munich. Ils se retrouvent à 8 points au classement. Ils ne sont même pas dans le top 4 pour l'instant pour la prochaine Ligue des Champions. Il y a du temps, évidemment. Mais c'est quand même assez dramatique, la performance de cet après-midi.
Polo et Johan, merci beaucoup les gars. On vous retrouve lundi, comme toutes les semaines.
Salut, avec plaisir.
Ciao, salut messieurs.
Salut les gars, 20h-22h, Génération After spécial drôle de dames. Là, vous n'avez qu'un aperçu de ce que vous avez tous les lundis soirs entre 20h et 22h avec toutes les drôles de dames. Kevin, coach, merci beaucoup les gars.
Merci à toi.
Salut, salut. À la semaine prochaine. Merci à Toto en régie, Nico Ledru, merci à Adrien au standard et merci surtout à vous d'être là fidèle à l'After comme tous les soirs. Passez une excellente soirée, l'équipe. L'After revient demain, 20h30, pour l'affiche. Un bon vieux 0-0 entre Lens et Marseille. Non, quand même pas. À demain, tout le monde. Ciao.
RMC, l'After Foot.